VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, les forces de sécurité nigérianes qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants chiites armés de pierres cette semaine, suscitant la préoccupation de Washington, ont repris à leur compte aujourd'hui des propos du président américain Donald Trump justifiant l'usage de la force armée sur des migrants jetant des pierres. Dans un post sur son compte Twitter, l'armée nigériane publie la vidéo d'un discours du chef de l'exécutif américain prononcé jeudi, dans lequel Donald Trump évoque le sort de la caravane de migrants sud-américains s'approchant de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et prévient que toute personne jetant des pierres serait considérée comme armée. Regardez, s'il vous plaît, et tirez-en vos propres conclusions, commente l'armée nigériane sur son compte officiel. Le porte-parole du ministère nigérian de la Défense, John Ajim, a confirmé que ses propos sur le compte Twitter de l'armée nigériane faisaient directement référence à la récente répression des manifestants de la minorité chiite à Abuja. L'armée nigériane y a ouvert le feu cette semaine sur des protestataires de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, qui réclamait la libération d'Ibrahim Zakzaki, leur leader emprisonné depuis 3 ans. Bilan officiel, 6 manifestants tués, mais l'IMN a fait état de 49 morts, tandis que l'ONG Amnesty International affirme que 45 personnes ont perdu la vie. L'ambassade américaine au Nigeria s'est dit préoccupée jeudi par ces incidents et a exhorté les autorités nigériennes à mener une enquête approfondie sur ces violences. En Guinée, la gendarmerie a empêché jeudi plusieurs centaines d'opposantes de marcher à Conakry pour réclamer justice pour leurs enfants tués, selon elle, pendant les manifestations réprimées par les forces de l'ordre. L'opposition estime à 98 le nombre de manifestants tués depuis l'arrivée au pouvoir en 2010 du président Alpha Condé. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a déclaré que l'extension des attaques dans les régions de l'Est et de l'Ouest du pays, a fini par convaincre les plus sceptiques que le Burkina fait aujourd'hui face à une campagne de déstabilisation. M. Bouda a tenu ses propos lors de la commémoration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Le point avec Morgane Guiriec.
Le bilan au cours de cette année 2018 est assez éloquent. De nombreux morts et blessés, des infrastructures économiques et sociales détruites, des populations déplacées et la paralysie de nombreuses activités économiques, a souligné le ministre, appelant à l'union de tous les fils et filles contre la menace terroriste. Le ministre de la Défense n'a pas précisé qui il voyait derrière cette campagne de déstabilisation. Mais le président burkinabé, Rochmar Christian Kabore, a plusieurs fois accusé les nostalgiques de l'ancien régime de Blaise Compaoré de vouloir déstabiliser le pays. Une thèse jugée peu crédible par les experts et les diplomates pour qui les attaques sont perpétrées par des groupes djihadistes. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, ces attaques ont fait 118 morts, 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
Ebola en République démocratique du Congo, 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la 10e épidémie de fièvre hémorragique dans le pays, ce qui porte à 180 le nombre de morts à déplorer dans cette nouvelle éruption de la maladie affectant le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri dans l'est de la RDC. Au total, 285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 250 confirmés, 80 et 35 probables, et un total de 180 décès selon le bulletin du ministère congolais de la Santé daté de jeudi. Les autorités ont également annoncé que la gratuité des soins était effective dans 3 zones de santé, Beni, Mabalako et Oicha, depuis le 20 août 2018. Kinshasa promet d'étendre cette politique de gratuité à l'ensemble des aires de santé du territoire de Beni. Et toujours en RDC, la présidence congolaise est accusée d'avoir une mainmise sur 2 institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral dans le pays, à moins de 2 mois des scrutins cruciaux censés organiser la succession du président Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une étude publiée jeudi par le GEC, le groupe d'études sur le Congo basé à l'Université de New York, ici aux États-Unis. Selon les auteurs de ce document, une grande partie de la faiblesse de ces institutions provient de la capacité de la présidence de la République à contrôler, coopter ou diviser les différentes forces politiques et sociales qui devraient servir de contrepoids. Les élections présidentielles, législatives et provinciales clés du 23 décembre 2018 doivent organiser la succession du président Joseph Kabila qui ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, au moins 19 avocats et défenseurs des droits de l'homme, 8 femmes et 11 hommes, ont été arrêtés. C'est ce qu'a annoncé jeudi Amnesty International, le point avec Nani Talani.
Parmi les personnes arrêtées figure Oda Abdelmonem, une avocate âgée de 60 ans, ancienne membre du Conseil national des droits humains. Les forces de sécurité ont saccagé son domicile avant de l'emmener vers une destination inconnue. Mohamed Abdou Orera, avocat lui aussi et époux d'Aïcha Kaira Al-Shater, a également été interpellé, de même que 2 autres hommes proches des frères musulmans. Selon l'avocat Abdelmonem Abdelmaksoud, 2 des femmes arrêtées, Aïcha Kaira Al-Shater et l'avocate Oda Abdelmonem, sont actives dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Auparavant, il avait fait état de l'arrestation jeudi de 8 femmes et 3 hommes proches des frères musulmans, dont la fille de Mohamed Kaira Al-Shater, l'un des chefs de la confrérie. Ces arrestations de défenseurs des droits humains ont poussé une importante ONG locale, la Commission égyptienne des droits et libertés, à suspendre ses activités, invoquant le climat hostile qui prévaut en Égypte aujourd'hui à l'égard de la société civile.
Actualité aux États-Unis maintenant, l'immigration est un des sujets clés de la campagne de mi-mandat où les électeurs choisiront mardi prochain entre autres les députés de la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs du Congrès fédéral ici à Washington. Une caravane composée de milliers de centra-américains se dirige vers la frontière américaine. Avant cela, il y avait les 700 000 bénéficiaires du programme DACA sous l'ère Obama, qui permettait à des jeunes sans papier de vivre et travailler légalement aux États-Unis. Ces jeunes ne sont plus au devant de l'actualité depuis quelque temps, mais ils sont bien là et ils comptent jouer leur partition dans ces élections cruciales. Un reportage de Ramon Taylor rendu par Abdourahman Dia.
Julian Ulises Juarez est venu aux États-Unis à l'âge de 10 ans en provenance du Mexique. Grâce à une bourse, il va à l'université et devient un reporter télé. Et en 2017, il remporte un trophée des Emmy.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA. And this is very special because of that.
Lorsque j'ai eu mon trophée, je voulais que cela fasse partie de mon discours. Je voulais être devant toutes ces personnes, dont beaucoup travaillent pour des chaînes anglophones, pour leur montrer qui je suis. Voilà ce que DACA a rendu possible.
Depuis 2012, lorsque l'ancien président Obama avait annoncé le programme DACA, 700 000 sans-papiers amenés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants ont obtenu le droit de travailler et de vivre ici grâce à une autorisation de travail valable pour 2 ans renouvelable. Le président Trump a annoncé en 2017 la fin de ce programme, renvoyant la balle au Congrès pour trouver une solution permanente. Plus d'un an après, et à quelques jours des élections de mi-mandat, les Dreamers comme Juarez attendent toujours. D'autres controverses comme le mur à la frontière avec le Mexique ou la séparation des familles ont éclipsé la situation des Dreamers.
Il y a toujours quelque chose qui vient pour occuper la scène. Et franchement, ils nous oublient. Ils nous oublient parce que c'est dans les circuits judiciaires et ils disent que ça va s'arranger ou qu'ils peuvent postuler encore et qu'au moins leurs documents peuvent être renouvelés en attendant. Donc ça va. Et c'est pour cela que rien ne se fait.
Pour les 13 000 bénéficiaires du DACA dans le Nevada, les élections de 2018 pourraient aboutir à une nouvelle déception. Mais au moins, c'est une nouvelle occasion de se faire entendre. Les 29 % de la population latino dans cet État sont attentifs.
La discussion, c'est ma famille est attaquée, mon voisin est attaqué, mes amis sont attaqués. Et peut-être que je ne suis pas touchée personnellement, mais je me soucie de ces personnes car elles font partie de ma vie.
Même si les Dreamers n'ont pas le droit de voter, certains d'entre eux se disent qu'ils n'ont rien à perdre en galvanisant les électeurs.
Ma génération ne s'intéressait pas à la politique et on se disait que notre vote ne comptait pas. Donc je mets la pression sur mes amis, je leur demande de me rejoindre dans cette aventure pour essayer de changer les esprits.
Quelle que soit l'issue de ces élections, ces jeunes Dreamers espèrent que leur statut sera au cœur des priorités de la prochaine législature.
Si quiere, yo le ayudo a llenarlo.
No, yo tengo una de ellas.
Oh, pero ya la mandó por correo.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.